Alors, le père Gaëtan Lucas m'a demandé de vous parler de l'intériorité, de ce thème, en fait, qui fait suite à l'intervention de Monseigneur Santène à la Pentecôte. Alors, pour préparer ça, j'ai regardé à nouveau ce qu'il avait dit, vous savez, dans la célébration d'envoi. Et il nous avait dit, on ne va pas faire des programmes nouveaux, parce que dans les diocèses, on peut faire des tas de programmes, des tas de... Bon, il nous a dit, je vous laisse trois mots, qui sont mission, communion et intériorité. En nous disant, en fait, la question importante, c'est la question de la mission. Hein. C'est sûr qu'un jour Pentecôte, c'est bien adapté. C'est ce que nous dit le pape François, hein, dans la joie de l'Évangile. Hein. L'enjeu pour nous, un des enjeux de l'Église, en tout cas pour moi, hein, quand je dis, c'est d'arriver à sortir du bocal. Moi, j'ai une paroisse où les gens sont assez contents. Bon, c'est la base, enfin, il faut que les gens soient contents quand même dans la paroisse. Mais bon, alors on améliore, on fait un bon site internet, on va voir les gens, on fait une catéchèse qui est encore mieux, on fait des parcours et tout ça, puis on peut comme ça améliorer, améliorer, améliorer. Mais moi, mon point de conversion, je vois bien en ce moment là, ça va être, parce que ça fait 3 ans que je suis là. Donc les premières années, vous mettez les choses en place. C'est pas... Mais là maintenant, c'est de sortir de la paroisse. C'est-à-dire d'aller vers des personnes qui sont pas du bocal, quoi. C'est-à-dire de rencontrer des incroyants, voilà, de faire des visites à domicile, je sais pas, d'inventer des trucs, pour qu'on ne soit pas simplement le groupe d'anciens combattants qui se retrouvent. Voilà. Mais enfin, on n'a perdu personne. C'est beau aussi, vous savez. Le prêtre qui arrive en paroisse et qui perd pas les gens, c'est quand même pas mal aussi. Bon. Mais le pape François, il nous appelle un peu plus, quoi. Bon. Alors, c'est ce que nous a dit le Monseigneur Santène, donc vous reprendrez le texte, hein, qui était paru dans Chrétien Morbihan, la Pentecôte 2015, voilà, bon. Enfin, vous l'avez aussi sur le site du diocèse, certainement. Bon. Alors, il nous a donné une méthode, notre évêque nous dit, cette mission, nous ne pourrons la remplir, le Christ l'affirme dans l'Évangile, que si nous sommes en communion les uns avec les autres. Il donne une clé, il y aurait d'autres clés, mais il dit il y a une clé, en fait, pour être missionnaire, il faut être en communion. Bon, je me souviens de cette réflexion d'un pasteur protestant américain qui s'appelle Rick Warren, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une église motivée par l'essentiel ». C'est assez intéressant comme livre. En fait, c'est un livre sur le gouvernement, c'est-à-dire comment aider, quels sont les moyens pour qu'une église grandisse. Moi, quand j'ai fait des retraites, je vous parle assez librement aussi, voilà, parce que sinon je vais vous faire de la théorie, donc je vous parle un peu de moi, puis bon, voilà. Quand j'ai fait des retraites, on m'a, en gros, le discours, c'était, vous savez, la mission, pour être missionnaire, il faut, en gros... En fait, c'est la question, c'est la sainteté. Et si nous sommes saints, eh bien, on porte des fruits. Bon, ce qui n'est pas faux, hein, c'est ce que je vais dire dans quelques minutes. C'est pas faux, mais c'est un peu culpabilisant, parce que vous imaginez, en fait, le problème de ma paroisse, le problème de mon secteur, ça ne marche pas parce que je suis pas saint, en fait. Si j'étais saint, ça marcherait. Bon, c'est vrai et c'est pas vrai, vous comprenez, c'est toujours les deux. C'est comme un jardinier. Le jardinier, il a beau être un saint, s'il ne sait pas planter les carottes et les salades comme il faut, il a beau être saint, ça marche pas. Donc il y a un savoir-faire. Et donc Rick Warren, cet homme-là, eh bien, il dit il y a un certain savoir-faire pour que ça marche. Si votre sono elle est nulle, bah, il faut peut-être changer la sono. Vous voyez, il y a des trucs. Et alors, on lui pose la question, alors à une convention, un grand rassemblement, donc lui, c'est des églises aux États-Unis protestantes, où leur question, c'est comment faire une nouvelle route, parce que les gens, en fait, ils arrivent, vous avez, je sais pas quoi, 5-6 cultes, vous avez 10 000 pratiquants par week-end, et donc les gens, avant qu'ils arrivent à l'espace, c'est assez compliqué, donc il va falloir faire une déviation, etc. Donc c'est ça leur question. Et alors, on lui posait la question, d'accord, mais vous dites qu'une église, elle est elle est un organisme vivant, donc elle est comme une vigne, comme dit Jésus d'ailleurs, elle est comme un arbre, comme dit Jésus, elle est comme une semence, donc elle doit grandir. le signe d'une église en bonne santé, c'est qu'elle grandit. Mais imaginez que vous soyez devant une église avec, je sais pas quoi, on va dire, allez, 80 personnes, que les gens sont vieux, qu'il n'y a pas de bonne musique, voyez le truc, et qu'il y a les gens sont, enfin, qu'il n'y a pas beaucoup de talent, enfin, on va imaginer. Bon, parce que votre église, c'est super, il y a des gens qui s'occupent d'Internet, tout ça, mais nous, on a pas de chanteur, on n'a pas tout ça, et on est 80, et on est un peu vieux, et voilà. Et le plus jeune à 70 ans. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette église? Alors il dit, écoutez, cette église, il y a deux choses. D'abord, si les gens ont un rapport à Jésus qui est un rapport vivant, qui n'est pas un rapport culturel, la première chose. Est-ce que Jésus est vraiment vivant et non pas une culture, non pas une idée? Bon. Et la deuxième chose, il disait, pour en revenir à la communion, il disait, mais si les uns et les autres ont une amitié, une communion extraordinaire, ben, ils vont forcément attirer. Parce que quand vous... Un groupe où les gens sont hyper chaleureux, où ils s'invitent en dehors de la messe, où ils se retrouvent, etc., ben, à un moment donné, ça attire. Et on a envie de faire partie de ce groupe. C'était sa lecture. Mais je trouve ça assez intéressant de dire, voilà, dans nos paroisses, c'est plus sympa au club de sport que, je sais pas quoi, ou au club du troisième âge qu'à la paroisse le dimanche. Enfin, il y a un problème. Donc il faut que... Enfin, pas les vôtres, mais la mienne. Donc, il faut que nos paroisses, ça soit un lieu de charité, parce qu'on parle de l'amour, il faut que ce soit extraordinaire, quoi. Vraiment, enfin voilà, on dit, voyez comme ils s'aiment, quoi. Et c'est exactement ce que dit donc Monseigneur Santaine, qu'ils soient un comme nous-mêmes, que leur unité soit parfaite. Ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé. Mais alors, il continue, notre évêque. Il dit d'accord, c'est la mission qui est important. Ok, faut sortir du bocal. Le moyen, ça va être la communion. Alors, moi, j'ai dit que la communion, elle se fait par une entente. Alors, il va plus loin, notre évêque. Il dit, mais, cette unité, cette communion, n'est pas une attitude. Elle n'est pas une posture. Elle n'est possible que si elle naît et si elle irradie des profondeurs de la vie, de la conviction et de la conviction. En un mot, elle n'est possible que s'il y a pour chacune et chacun de nous une véritable intériorité. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Donc il dit en fait, la communion, c'est un accent, la communion elle est que s'il y a en fait pour chacun une véritable intériorité. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un groupe est en communion? C'est qu'il va vivre quelque chose au niveau de l'intériorité. Donc je suis en train de comprendre que la source de la mission, c'est la communion, et la source de la communion, c'est l'intériorité. Alors pour illustrer ça, je vais donner un petit témoignage. J'étais jeune vicaire, nous avions fait un camp ski. On était partis, bon... Et bien sûr, après le camp ski, on fait ce qu'on appelle un retour camp, parce que c'est important, on a pris des photos, donc on va regarder les photos et tout ça, et puis on a besoin de se retrouver. Et alors, évidemment, voilà, je sais pas quoi, les garçons avaient apporté une bouteille, les filles avaient fait des quiches, des salades, bon. C'était les jeunes pros, hein, bon. Et puis on a passé nos diapos, là, on se rappelait plus ou moins des prénoms des uns des autres. Bien sûr, tu regardes, est-ce que tu as été pris en photo ou pas? Bon. Non, je ne suis toujours pas sur la photo, je ne suis toujours pas, bon. Et à la fin, tout le monde est rentré chez soi. Et alors, avec l'organisateur, en fait, on a eu un sentiment un petit peu de, comment dire, de creux, de vide, de frustration. On a réfléchi, on s'est dit, mais pourquoi, en fait, nous n'avons pas la joie que nous espérions? Eh bien, on s'est dit, en fait, des souvenirs ne font pas une communauté, ne donnent pas la joie. Des simples souvenirs repassés comme ça sur un écran ne donnent pas la joie. Ce qui donne la joie, c'est peut-être si nous avions eu un projet commun. Si on s'était dit, ben tiens, en fait, oui, c'est sûr qu'on a profité de ce camp-là. On s'est mis ensemble, mais fallait rebondir sur cette fraternité pour qu'elle soit ordonnée à la mission. et qu'ensemble on se dise, mais en fait, on est une bande de copains, qu'est-ce qu'on peut faire pour évangéliser? Et qu'on soit tourné vers l'avenir, vers un projet, pas vers le passé, on était tourné vers le passé. Et c'est ça, dans une paroisse, dans un diocèse, vous voyez, quand un diocèse est toujours tourné vers le passé, ça crée des frustrations, ça ne donne pas la joie. On peut très bien aller de célébration en célébration de ce qu'on a fait. Mais ce qu'on a fait, c'est ce qu'il faut, c'est où est-ce qu'on va? Voyez, et être en communion les uns avec les autres, en fait, c'est plonger en nous dans une adhésion du Christ, et cette adhésion du Christ nous tourne vers la mission. Moi, je me rends compte en paroisse, les personnes avec qui je suis le plus proche, c'est les gens qui donnent leur vie. J'aime bien ce que dit la présentation du missel romain. Présentation du missel romain, vous savez, sur la messe. Je ne vous ai pas mis le texte, mais bon. On dit un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire les différents moments de la messe. C'est intéressant, c'est au début du missel. Et alors, on nous dit ceci au numéro 95. Dans la célébration de la messe, les fidèles constituent le peuple saint. Ce peuple, pour rendre grâce à Dieu et pour offrir la victime sans tâche. Non seulement pour l'offrir par les mains du prêtre, mais pour l'offrir ensemble avec lui et apprendre à s'offrir eux-mêmes. Donc je reprends. Dans la messe, les fidèles sont le peuple saint. Il n'y a pas que le prêtre qui offre. Les fidèles aussi offrent avec le prêtre. Le moment de l'offrande, c'est le par lui, avec lui, en lui. Alors, ils sont là, les fidèles et le prêtre, pour offrir, mais aussi pour apprendre à s'offrir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, la messe est une école pour apprendre à s'offrir. Quand je vois Jésus qui s'offre, je me dis, moi, en fait, je dois donner ma vie. Et du coup, la véritable participation à la messe, c'est pas tellement qu'on fasse de la guitare ou que, je sais pas quoi, on fasse la lecture. La véritable participation à la messe, c'est que je m'offre. Et donc, en fait, moi, je me rends compte, les personnes avec lesquelles je suis en communion, c'est les personnes qui s'offrent. Je suis plus proche de certains paroissiens que des membres de ma propre famille, y compris ma famille spirituelle. Je suis proche, moi, des gens qui donnent leur vie, ça me donne envie d'être saint. Plus les gens donnent leur vie, plus j'ai envie de donner la mienne. Vous voyez ? Et plus je me sens proche de ces personnes-là. Et je pense que vous faites le même constat, vous aussi, vous voyez. Ceux qu'on aime, c'est un peu les saints, Paris, ceux qui aiment le Seigneur, voilà. En fait, ceux qui ont une véritable intériorité, pour revenir sur, et boucler, voilà, fermer la boucle, ceux qui ont un véritable travail sur eux-mêmes, ceux qui accueillent pleinement l'amour de Dieu en eux, eh bien, du coup, on se sent en connaturalité, on se sent proche, parce que en eux réside cette présence. Du coup, je comprends, voilà, qu'un des éléments de la mission, c'est la communion, et que l'élément de la communion, c'est cette intériorité. Alors, cette intériorité, notre évêque conclut, nous ne pourrons être unis et vivre notre mission que si nous sommes constamment ressourcés par la présence de Dieu en nous. Ok. Et si nous nous rendons présents à lui par la prière, l'écoute de sa parole et la vie sacramentelle. Donc la communion, elle se fait par cette intériorité, et on va être unis et vivre notre mission que si on est ressourcé par la présence. Et cette présence, notre évêque, il donne trois mots qui sont la prière, l'écoute de la parole et la vie sacramentelle. Alors, la prière, du coup, je me suis dit, je vais vous faire aujourd'hui quelque chose sur la prière. Voilà. C'est un aspect. Je ne peux pas, en fait, avoir un cœur habité par le Seigneur si je prie jamais. Jésus priait lui-même, alors qu'il est fils de Dieu. Donc, bon, les sacrements, notre évêque dit les sacrements. Pour nous, les sacrements, on est tous baptisés, confirmés, donc les sacrements qui restent, ça va être la communion et le sacrement du pardon, la confession. En fait, on est en communion les uns avec les autres si on communie au même pain. C'est assez simple, en fait. Devenez ce que vous recevez. Donc le plus grand service que je peux rendre à mon frère, à ma sœur, aux jeunes que j'accompagne, c'est d'être un grand pratiquant, une grande pratiquante. Et le plus grand service que je peux donner aussi à ma communauté, à mon époux, si je suis marié, à mes frères et sœurs, c'est de me confesser. Moi, je le vois bien, hein. Si je ne me confesse pas régulièrement, parce que l'intérêt de la confession, c'est que ça nous oblige à faire d'abord une pause. On fait un arrêt. Et on se dit, qu'est-ce qui tourne pas bien dans ma vie? Et puis, ça nous redonne une espérance. On se dit, mais en fait, je peux devenir un saint. C'était Jean-Paul II qui disait, vouloir le baptême, c'est vouloir être un saint. Voilà. La sainteté, c'est l'état normal, hein. On est fait pour être saint. Voilà. Pour ça que de temps en temps, le pape, il canonise des saints pour dire, voyez, c'est accessible, c'était normaux, les parents Martin, ils s'étaient mariés, c'était pas des bonnes sœurs et tout, donc, ils étaient dans le monde, hein. Elle avait un travail, hein, madame Martin, donc vous pouvez être saint, avoir un travail, et pas être comme ça, cloîtré dans un carmel. Bon. Voilà, donc on nous explique que c'est possible. Voilà, la confession, c'est ce moment où je me dis, enfin, oui, c'est possible, j'ai l'espérance, je peux devenir un saint. Et puis, donc voilà, la prière, je vais en parler aujourd'hui, la vie sacramentelle, j'en ai parlé, et l'écoute de la parole. Donc l'écoute de la parole, c'est clair que, en fait, c'est assez puissant de penser que Dieu parle. C'est quand même dingue, hein. C'est quand la Vierge apparaît quelque part, on dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit et tout, bon. Mais, enfin, j'ai rien contre Marie, hein. Je donne même un cours sur Marie cette année, dans ma paroisse. Mais nous avons mieux que la Vierge Marie, c'est-à-dire que nous avons Dieu qui nous parle. Et la Vierge Marie, elle n'est pas Dieu. Jésus, il est Dieu. Et Jésus, il est le Verbe de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous l'avons ici, quoi. Nous l'avons. Elle est complètement humaine et complètement divine, comme Jésus. Il est complètement humain, vrai homme et vrai Dieu. Voilà. Donc la parole de Dieu, en fait, je vous donnerai, c'est pour ça, une journée sur le Notre Père. Je ne sais plus à quelle date, vous avez les dates. Et le but de cette journée, c'est de montrer que le Notre Père, nous ne le comprenons pas. En fait, j'ai fait la découverte moi-même, hein. En fait, d'abord, je ne le comprenais pas, moi. Notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Il est dans les nuages? Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire quoi sanctifier le nom de Dieu? Je ne comprends pas. Faut faire de la guitare, faut chanter pour sanctifier. Que ton règne vienne, ça veut dire quoi le règne? Mais il est déjà, le Seigneur dit le règne de Dieu est au milieu de vous. Voilà, que ta volonté soit faite, on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu, etc. Bref, le Notre Père, c'est, et alors le but c'est en une journée de vous montrer, c'est un texte extrêmement puissant qui nous aide à comprendre notre vie. Voilà pour mon introduction en un quart d'heure. Donc je vous ai montré en quoi le but c'est la mission, c'est le projet, le moyen c'est la communion, et la source de la communion c'est l'intériorité. Donc je vais parler maintenant de l'intériorité. Et je vous invite à prendre le premier texte, qui est un texte d'une femme qui s'appelle Loubianska de Lenval. Alors j'ai retrouvé son livre. Alors je pense qu'il est réédité, j'espère. Loubianska de Lenval, qui est une femme qui a fait beaucoup de catéchèses, qui s'est occupée de beaucoup d'enfants et d'adultes. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Le silence à l'ombre de la parole. Bon, vous avez la référence. Alors voilà ce qu'elle dit. Prenez le texte numéro 1. Le silence intérieur est le lieu de rencontre de l'âme avec Dieu. Aussi longtemps que l'homme est dispersé, qu'il éparpille son moi dans le bruit, dans la vitesse et dans la vanité, il ne peut pas rencontrer Dieu. Il faut qu'ils se rassemblent, se ramassent, se recueillent, afin d'attendre dans le silence le salut de Dieu. Ceci posé, l'éducation religieuse, qui n'a pas d'autre but que de faciliter la rencontre de l'âme avec Dieu, se présente comme un acheminement vers le silence. Le monde veut le bruit et la dissipation. Il a peur du silence. Il confond celui-ci avec le vide. Il ignore que le silence est plénitude, car il est la place que l'homme fait à Dieu. Donc, je trouvais ce texte intéressant. On est tous là pour éduquer religieusement. Peut-être qu'aujourd'hui, on mettrait un autre mot. Peut-être que c'est un mot un peu vieilli. Mais en fait, le but, c'est ça. Le but, c'est de conduire au Christ, d'éduquer. Et on nous dit quoi? Cette éducation, en fait, éduquer quelqu'un chrétiennement, l'éduquer religieusement, c'est le conduire au silence. En fait, le conduire à la prière. En catéchèse, je vais réussir mon année si je vais donner à l'enfant, à l'adolescent, les moyens d'entrer dans le silence. Et du coup, d'entrer dans la prière. Je peux faire tous les discours sur la prière, très bien, mais attends, je peux faire de la morale en disant aux uns et aux autres, vous savez, il faut prier, la prière est un devoir, c'est un commandement. Je peux faire de la morale, mais ce qui restera pour l'enfant, c'est, à l'âge adulte, c'est, les clés concrètes pour que lui-même, il sache prier. Vous savez que Eti Ilsoum, là, s'est converti, une des clés pour sa conversion, ça a été de rentrer, c'est une juive, elle est rentrée dans une église à l'heure du marché, et elle a vu une femme prier dans cette église. Et gratuitement, voilà, elle a vu, en fait, elle a fait la même expérience que les disciples avec Jésus. Les disciples voient Jésus prier, et en voyant Jésus prier, Luc chapitre 11, les disciples disent, mais écoute Seigneur, apprends-nous à prier. Donc la manière dont cette femme, revenant du marché, a prié, a conduit Eti à avoir une clé pour prier, c'est-à-dire à se mettre dans une attitude. Elle a compris que la prière c'était pas réciter des choses, que la prière c'était fermer les yeux, que la prière s'était rentrée dans son cœur. Tout ça, elle l'a appris en voyant cette femme. Cette femme n'a rien dit. Elle a simplement été là. En voyant quelqu'un qui prie, en voyant quelqu'un qui sait faire silence, j'ai envie de faire silence. J'ai envie de rentrer. Voilà. On voit bien cette expérience quand on emmène des ados ou des enfants dans un monastère, on se dit, en les voyant vivre, en les voyant à la chapelle, eh bien, il y a un silence qui va se faire naturellement. Bon. Alors, c'est ça notre but. Hein? Si je permets à l'adolescent dans la tourmente d'être capable lui-même de s'adresser à Dieu, j'aurai réussi cette éducation religieuse. Hein? Quand il aura un peu tout perdu, il y a une chose qu'il gardera, c'est qu'il saura parler à Dieu. Alors ça, c'est sur la prière et l'intériorité. Je continue un deuxième volet sur cette intériorité. Il ne faut pas résumer l'intériorité à la prière. L'intériorité, c'est aussi tout simplement prendre conscience que notre cœur est le lieu où se joue notre vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même au chapitre 6 de Saint Luc, verset 43. Je lis. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbre gâté qui produise un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, on ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. L'homme bon Du bon trésor de son cœur tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais de son mauvais fond tire ce qui est mauvais. Car c'est du trop-plein du cœur que parle sa bouche. C'est du trop-plein du cœur que parle sa bouche. Donc, l'image de Jésus, vous voyez comment il voit l'homme? Il voit l'homme comme un arbre. C'est pas une image nouvelle, hein. Déjà, le psaume 1 l'avait pris. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté dans les eaux du ruisseau. Hein? Donc, heureux l'homme, il est comme un arbre planté dans les eaux du ruisseau. Donc Jésus compare l'être humain à un arbre. Les racines, ça va être le cœur. Si mon cœur est pur, mes œuvres vont être pures. Si mon cœur est malade, mes œuvres vont être malades. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Ce que dit la bouche, vous pouvez le prendre au sens large, hein, c'est pas simplement mes paroles. C'est toutes mes œuvres. Ce que j'ai fait va être le fruit de mon cœur. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous avez un exemple concret. Exemple concret, Marie à la visitation. Enfin, je vous ai mis l'icône. Et je lis simplement la visitation. Voilà, application. Donc, Marie se rend en hâte chez Élisabeth, chapitre 1. Voilà, elle salua, 1,40, elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit « Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et ensuite, Marie chante le Magnificat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Marie va voir Élisabeth, et qu'est-ce qu'elle dit, Élisabeth? Dès que j'ai entendu ta salutation, tu m'as simplement dit bonjour. Et ce bonjour, il a provoqué un tressaillement, plus exactement, en fait, l'enfant a tressailli dans le sein d'Élisabeth. Donc, Jean-Baptiste commence son ministère. Jean-Baptiste, vous voyez, il est déjà prophète. Ça provoque en Élisabeth une effusion de l'Esprit Saint. Et Élisabeth comprend que celle qui vient la voir, et la mère de Dieu. Et Marie, du coup, d'une certaine manière, reçoit une confirmation. L'ange est venu et lui avait dit, mais tu sais, tu vas chez Élisabeth, hein, elle aussi porte un enfant. Bon, elle ne le sait pas, elle le croit dans la foi. Mais là, elle a la confirmation qu'en effet, sa cousine est enceinte et elle est la mère de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, elle va simplement évangéliser, elle est le premier ostensoir, le premier tabernacle, elle porte en elle l'enfant, et quand elle parle, les gens sont évangélisés. Et Jean-Baptiste démarre son ministère, et Élisabeth, voilà, reconnaît que c'est la mère du Seigneur, etc., elle confesse et tout, quoi. Simplement, comment ça s'est passé? Elle a simplement dit bonjour. Qu'est-ce que dit Jésus quand il parle du témoignage? Il dit, quand vous allez témoigner, vous allez aller chez les gens, vous prenez rien, pas besoin, prenez rien, et puis simplement saluez-les en disant paix à cette maison. Comprenez? Parce que si vous venez chez les gens avec vos tracts, vos machins, ma doctrine et tout ça, vous allez les fatiguer. Vous allez simplement les aimer. Et en aimant les personnes, eh bien, les personnes vont comprendre que Dieu est bon, parce que vous êtes bon. C'est simple, hein, l'évangélisation, il faut être bon. Qu'est-ce qu'a fait le pape François quand il a démarré? Il a fait exactement comme Marie. Il a salué les gens. Voilà. Puis il a demandé la prière. Voilà ce qu'il a fait sur le balcon. Et puis il leur a dit bonne nuit. Voilà, nous on est là, alors on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les parents du cathé viennent à la réunion? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait peut-être qu'on fasse un, je sais pas quoi, un apéro, et puis faudrait qu'on les réunisse, et puis qu'on fasse un PowerPoint, et ils viendront, et puis machin, et tout. Puis on va faire des... Non. Le premier truc, c'est qu'ils voudraient, mais c'est pas moi, que tu les aimes. Pas que tu te caches derrière des produits. Moi, je vois bien, mon point de conversion, c'est d'arrêter de me cacher derrière des produits. Vous savez, faire des parcours, tout ça, c'est facile pour moi. Hein. Faire des conférences, c'est pas très dur. Enfin, c'est pas très dur, faut travailler, vous lisez le bouquin, vous parlez, vous mettez le ton. Ce qui est plus difficile, c'est de rencontrer chacun. Je vois bien, je dis aux catéchistes, écoutez, je dis aux mamans, les mamans qui attendent leur enfant, est-ce que tu pourrais pas parler à celle-là? Te faire ami, simplement. Pas simplement prendre ton enfant, mais prendre ton enfant et en même temps t'intéresser à l'autre, lui dire bonjour, vous venez d'où? Simple, quoi. Aimer les personnes. Enfin, les gens, ils vont pas rester. Ils restent pas dans une paroisse parce qu'il y a de la bonne musique, parce qu'il y a des belles homélies, tout ça. Ils restent parce qu'ils ont trouvé des amis. Par contre, ils vont rentrer parce qu'on leur a dit que la messe était comme si, qu'il y avait une belle homélie, qu'il y avait de la bonne musique. Ça, ils vont rentrer comme ça. Ou ils vont rentrer parce que c'est pratique, parce que c'est à côté. Mais ils vont rester parce qu'ils ont trouvé des amis. Voilà. Vous voyez, un bon exemple de... tout ça pour dire, vous voyez, j'ai fait une petite digression, mais un bon exemple pour dire, Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle travaille sur son cœur. En fait, bienheureuse celle qui a cru. Ce que Élisabeth reconnaît en Marie, c'est sa foi. Il y a quelque chose de ta foi qui est extraordinaire. C'est pas bienheureuse parce que tu portes l'enfant, c'est bienheureuse parce que tu as cru. Ce que je reconnais en toi, c'est ta foi. Alors vous prenez une icône de la Vierge Marie, vous prenez la petite Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus. Ben, Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai que cette vie pour vivre de foi. Au ciel, il n'y aura plus la foi. Au ciel, on aura la pleine vision. Je n'ai que cette vie pour vivre de foi. Hein, on peut dire de la petite Thérèse, bienheureuse celle qui a cru. Et voyez, une petite Thérèse, elle n'a rien fait. Elle a simplement cherché à aimer les sœurs de son couvent. Elle a simplement travaillé sur son cœur. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Elle a accueilli, elle a été dans l'intériorité, et du coup, elle est apôtre encore aujourd'hui. Les manuscrits autobiographiques sont traduits dans toutes les langues et tout le monde est touché par la petite Thérèse, chacun, machin, etc. Vous voyez? Donc c'est se dire, en fait, pour nous, on est dans une responsabilité ecclésiale, on est en mission. Le Seigneur nous dit, enfin, je t'en supplie, ne travaille pas à l'extérieur de ton cœur. Ce qui est important, c'est toi, c'est ta conversion personnelle. Je dis ça parce que vous savez qu'il y a des... on peut être... Alors ça arrive même chez les prêtres, hein. Des prêtres qui disent, en fait, la mission est tellement prenante que je n'ai plus le temps de prier. Mais enfin, la mission est une prière. Tout est prière. Je veux dire, Mère Teresa, des pauvres à secourir à la navette, elle avait dit, bon, comme il y a plus de pauvres, on va prier plus. Vous savez, un prêtre qui quitte le sacerdoce, en général, la technique, c'est qu'il rentre dans une solitude. Alors, vous avez deux types de solitude, soit la solitude par le haut, soit par le bas. La solitude par le haut, c'est je suis génial, les gens ne comprennent pas, je dois prêcher à travers la France. Voilà. Je sens que ma place, vraiment, c'est pas tellement ma paroisse, que ma paroisse, bon, c'est tombé, les gens veulent rien faire. Genre, propos des rues, ils veulent rien faire. Non, je vais faire des conférences à droite, à gauche, à travers le monde, et je vais écrire des livres. Voilà. Mais mon évêque me comprend pas, etc., mais c'est pas grave. Alors, tout d'un coup, vous voyez, le prêtre devient un peu la vedette, et puis, pouf! Tout d'un coup, c'est bizarre, mais il a quitté le sacerdoce, on sait pas pourquoi. Non. Mais ouais, mais il obéissait à plus personne. L'isolement par le bas, c'est je déprime, m'étouffe, j'ai besoin de compenser. Hein. J'allume la téloche, une petite bouteille. Voilà. Et puis j'arrête de prier. Ben oui, vous savez, il y a beaucoup de choses. Hein. Moi, je suis responsable de 6 paroisses, 6 clochers, 8 clochers, 10 clochers. Et le pape François, hein, dans sa lettre, il ne dit pas qu'il faut en faire plus dans la joie de l'évangile. Il ne dit pas, écoutez, vous les chrétiens, vous devez en faire plus, vous n'en faites pas assez. Non, non, il ne dit pas ça. Il dit qu'il faut faire différemment. Et donc, il faut peut-être en faire moins. Il ne faut pas de la quantité, il faut de la qualité. Bon. Donc, il faut, voilà. Nous, en fait, moi, je vois bien, moins je travaille sur moi-même, c'est-à-dire moins je suis exigeant par rapport à moi-même. Au sens, moins je me convertis. La conversion, c'est la prière, mais ce n'est pas que la prière. Et la docilité à l'Esprit Saint, l'acceptation de l'événement, enfin, il faudrait faire une journée sur ce que ça veut dire être docile à l'Esprit Saint, sur les fruits de l'Esprit Saint, sur l'écoute du cœur. Bon. En tout cas, je sais bien que je ne peux pas conduire, comme disait Lubianska, là, conduire ceux qui me sont confiés vers le silence et la prière si moi-même je ne prie pas. Si moi-même je n'entre pas dans ce cœur. Voilà, alors, je vais maintenant vous parler de la prière, maintenant que j'ai parlé du cœur, hein, en fait, de ce lieu central qui est le lieu de où se joue notre vie, qui est notre cœur. Hein. Le passage de la loi ancienne à la loi nouvelle, c'est le passage de l'extériorité à l'intériorité. C'est-à-dire que la loi ancienne, dans l'Ancien Testament, quand un juif, on parle de la loi, et grosso modo, la loi, c'est, on va dire que c'est les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. C'est grossier ce que je fais. Hein. Mais la loi ancienne, la loi nouvelle, quand saint Thomas d'Aquin va commenter la loi nouvelle, il va dire, en fait, la loi nouvelle, c'est le sermon sur la montagne. Et le serment sur la montagne, comment il commence? Il commence par les béatitudes. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre. Heureux les cœurs purs. Heureux les doux. On voit bien que toutes ces attitudes, les attitudes des béatitudes, sont des attitudes intérieures. C'est pas extérieur. La question, c'est pas simplement celui qui, je sais pas quoi, se met en colère. Enfin, je sais pas quoi, tue son frère. Ça, c'est extérieur. C'est celui qui se met en colère. Ça, c'est intérieur. Voilà, donc on voit bien le passage de l'extériorité à l'intériorité que nous fait faire Jésus. Alors, la prière. La prière, c'est ce lieu où j'apprends à être avec Jésus, pas à faire des choses. C'est le désir de Jésus. Hein. Marc chapitre 3, verset 14. Hein, il en appela 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher. Je crois que c'était Claude Lacolombière qui disait « Jésus a beaucoup de serviteurs, il n'a pas beaucoup d'amis. Hein? » Jésus a beaucoup de serviteurs, il n'a pas beaucoup d'amis. C'est l'évangile de dimanche prochain. Hein? L'évangile de dimanche prochain où Jésus... place un enfant au milieu d'eux et puis leur dit, voilà, celui qui accueille cet enfant, comme moi je l'accueille, eh bien, c'est celui-là qui est véritablement serviteur. Hein, si vous cherchez la grandeur, cherchez à être serviteur. Et alors, pour illustrer, il prend un enfant, il le met au milieu. Vous voyez, l'enfant, c'est celui qui ne peut être que servi. L'enfant, il ne sait rien faire. Il peut être que servi. Et celui qui m'accueille, eh bien, il accueille mon Père. Donc, je comprends que Jésus désire être accueilli. Je dois servir l'enfant le plus pauvre et je dois accueillir et servir Jésus. Jésus désire être accueilli. C'est intéressant, hein. Je pense à une des rares apparitions du Christ. La Vierge apparaît beaucoup, mais le Christ apparaît à Parelmonial. Et en fait, l'apparition du Christ à Parelmonial, où il montre son cœur, hein, toutes les statues avec le cœur de Jésus dans les églises, dans la plupart des églises, vous avez un statue avec un cœur de Jésus dans beaucoup d'églises, enfin, où il y a beaucoup de statues souvent. Enfin, pas dans la mienne, il n'y a pas de statue avec du cœur de Jésus, mais bon. Dans des vieilles églises, la statue avec le cœur de Jésus, c'est par elmonial, non? Et alors, à part elmonial, Jésus dit ceci: voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit qu'ingratitude. En particulier des âmes qui me sont consacrées. Donc c'est intéressant, Jésus apparaît à part elmonial et se plaint. Ouais, comme il se plaint à Gethsémani. Mon âme est triste en mourir, veillez avec moi. Vous voyez, Jésus, il a envie d'être aimé aussi, d'être aimé, quoi, pour lui, pas toujours à travers quelque chose. Dieu, je t'aime parce que je fais ça pour toi. Oui, mais si j'aime mon conjoint toujours en faisant des choses pour mes enfants, tu vois bien que je t'aime bien, chérie, parce que je me suis défoncé pour les enfants, je les ai amenés à la musique, je les ai amenés à ceci. Oui, non, mais le conjoint, il dit, je voudrais que tu m'aimes moi, pas qu'à travers les enfants. Je voudrais que tu m'aimes moi, pas qu'à travers les pauvres ou les autres. Moi. Jésus veut un cœur à cœur. Il en appela 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher dans un deuxième temps. Être avec lui, je vais sortir du coup dans ce être avec, dans la toute-puissance. Dans la prière, je ne fais rien. Ou plus exactement, je suis ce terrain qui accueille cette semence. La parabole du semeur, je trouve que c'est un mauvais titre, hein, parce que la parabole du semeur, ce n'est pas du tout une parabole sur le semeur. C'est une parabole sur le terrain. On nous parle des différents terrains. Donc moi, dans ma Bible, j'ai barré le mot semeur, j'ai mis terrain à côté. parce que la question qui nous est dit, est-ce que tu vas disposer ton cœur comme un terrain pour recevoir cette semence? La semence, il n'y a pas de problème, hein, elle tombe tout le temps. Dieu, il parle tout le temps. Au niveau de l'émetteur, il n'y a aucun souci, c'est au niveau du récepteur. La prière, c'est disposer son cœur comme un terrain pour recevoir cette semence qui est le Verbe de Dieu. Voilà. Alors, je vous ai mis un petit texte dans la page 2, le texte numéro 3, mais que vous lirez chez vous, où Benoît XVI dit que depuis qu'il est pape, eh bien, il a compris qu'il fallait qu'il prie plus. Voilà. Bon, nous, on n'est pas pape, donc on a peut-être pas besoin de prier, mais lui, il a besoin, par contre. Bon. Alors, c'est la page 2, c'est le texte numéro 3. Bon. Donc, dans la prière, c'est assez intéressant. C'est la petite Thérèse, par exemple, qui le disait. À un moment donné, elle disait, moi, je prie, mais j'ai pas beaucoup de lumière dans ma prière. Mais dans la journée, en me promenant, etc., et tout d'un coup, j'ai telle ou telle idée, telle ou telle lumière sur le Seigneur. Je ne sais plus, j'ai mis le texte quelque part. Non, j'arrive plus à trouver. Non, c'est pas grave. Bon. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez, parfois notre prière, elle est très aride, elle est très sèche, mais c'est pas très grave. La petite Thérèse, pareil, c'était un peu pénible. Mais dans la journée, elle avait telle ou telle lumière. Et du coup, elle avait compris que la prière n'était pas, comment dire, j'avais pris cette expression-là, il faut passer de la prière comme une œuvre de coopération à l'action, comme œuvre de subordination à la prière. Ça, c'est Raniero quand elle a mis ça. Si vous voulez, il y a deux manières de voir la prière. Soit vous voyez la prière comme une coopération, soit vous voyez la prière comme subordonnée à l'action. Soit comme coopérante à l'action, soit comme subordonnée à l'action. Alors, coopérante à l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, on fait une activité, mais bon, pour que ça marche, on va prier, ça va coopérer. Vous voyez, alors les gens, ils commencent une réunion, et puis ils disent, bon, ben, on va... Ou alors, non, pire. On termine la réunion et on dit, bon, on va pas partir sans prier. Hein. Donc, on va prier. Alors, on dit à notre Père ensemble et on part. Dès que je dis à Dieu, en fait, tu vois, tout ce qu'on a prévu, il faut que ça marche. Donc maintenant, on prie pour que ça marche. Enfin, la prière est coopérante. Or, la prière ne doit pas être coopérante, elle doit être subordonnée. L'action doit être subordonnée à la prière. C'est-à-dire, d'abord, je prie. Ma vie est une prière. Et mon action va découler de ma prière. Moi, je l'ai vu, on organisait, par exemple, à Paray-le-Monial, je voyais, on organise les sessions de temps en temps. J'étais dans une équipe, on organisait une session. Et alors, en fait, les veillées, on croit que c'est préparé très à l'avance. En fait, on prépare un peu jour après jour. Et dans l'équipe, on était une quinzaine. Et puis, on n'y arrivait pas, etc. Bon. Puis, il y a de la tension qui monte. Et tension qui monte dans l'équipe. On a dit, écoutez, on arrête. Là, on n'est pas en train de faire du bon boulot, là. On arrête, on va prier. On a été se mettre 20 minutes devant le Saint-Sacrement et on est revenu. Voilà. Et il y a eu la lumière. Alors, le problème dans une équipe, c'est que, voilà, il y a la pudeur, machin, on n'ose pas et tout, la prière, c'est intime, c'est personnel et tout. Bon. Je pense qu'il faut petit à petit, quoi. Je sais pas trop comment, je vous dis pas le comment, à voir avec notre équipe, mais si je sais pas, je fais 2 jours de travail ou une journée, ben, je me dis, allez, on va prendre un temps de prière, soit d'oraison, soit l'adoration, c'est peut-être plus simple. L'adoration du Saint-Sacrement, parce que le Seigneur est très visiblement, bon. Après, chacun fait sa méthode, soit. Bon. Mais, le drame dans notre église, c'est qu'on fait des tas de trucs, mais on prie jamais, quoi. Bon, alors tout à l'heure, on va prier. On va prier avec une petite méthode. Bon. Bon. Là, je vous dis des choses, elles sont. Je vois bien que c'est pas évident, mais. Enfin, tout ça, c'est marqué dans la joie de l'Évangile, hein. C'est pas des idées personnelles. Bon. Alors, sur la prière, je vous ai mis en dernière page une petite fiche. Alors, c'est une fiche que vous pouvez photocopier, donner. En une page, moi c'est une fiche que je donne à des adultes, en une page, je donne un mode d'emploi sur comment prier. Donc, alors, je vais la commenter, mais au fur et à mesure, je vais dire des choses en plus. D'abord, je signale que la prière pour nous, c'est en fait une journée, elle commence la veille. C'est-à-dire que la veille, je sais à quel moment le lendemain je vais prier. Et à l'heure où je me couche, je sais dans quel état je serai vis-à-vis de mes paroissiens, de mes enfants, de mon mari, de n'importe qui. Vous savez, une journée commence la veille. Si je me couche fatigué en ayant traîné à mort sur Internet, je sais pas quoi, ben le lendemain, je vais être un petit peu agressif autour de moi. Donc, de combien de temps j'ai besoin de sommeil? C'est délicat. Je sais que vous avez un travail, beaucoup ont des enfants en plus et tout ça. Mais il faut avoir une, comment dire, enfin, c'est des trucs de béaba, mais bon. Essayons de repérer, vous voyez, dans notre journée, tous les lieux où, en fait, on perd du temps. Et tous les moments qu'on peut gagner pour avoir le temps suffisant de sommeil. Pour si je prie le matin, j'arrive vraiment à me lever pour prier. Parce que certains, ils se rendent bien compte que quand la journée démarre, en fait, on n'arrive plus à prier. Bon, chacun trouve le moment dans la journée où il peut prier. Je pense que le temps de prière, moi, je donne 15 minutes. 15 minutes, ça fait 1% de la journée. Parce qu'il y a 24 heures. 24 heures étant fait de combien de quarts d'heure ça fait? Ben 24 heures, il y a 100 quarts d'heure, c'est ça? Hein? 96 quarts d'heure. Donc 87, c'est pratiquement 100 quarts d'heure. Donc si je prie 15 minutes, eh bien je fais 1% pour Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul. un quart d'heure. Mais c'est vrai que le temps de mise en présence, on se met en présence de Dieu, on ouvre un texte, voilà. Bah, c'est comme quand vous allez chez quelqu'un. Si vous voulez vraiment faire une rencontre avec quelqu'un, avant un quart d'heure, bonjour, comment tu vas? Assieds-toi. Parler d'un petit quelque chose, repartir, dire au revoir. Avant un quart d'heure, on prend des informations, mais on ne demeure pas avec la personne. Bon. Si c'est trop un quart d'heure, commencez par 10 minutes. Hein. Bon. Donc voilà. Alors la veille, alors il y a des gens qui disent « j'ai pas le temps de prier ». Bon, si on rajoutait une demi-heure à ta journée, est-ce que tu aurais le temps de prier ? Donc, alors, c'est là où je comprends que la question, c'est pas le temps, la question, c'est le choix. C'est que aimer, dans le langage de Jésus, c'est préférer. Aimer, c'est préférer. Je vois que quelqu'un aime Dieu au fait qu'il est capable de préférer, donc de se détacher. La première image du disciple dans l'évangile, c'est quelqu'un qui se détache de son filet, de ses parents, et des ouvriers. Ça, c'est Marc chapitre 1, première image du disciple. Je vois que quelqu'un aime Dieu, pas parce qu'il a de la grosse chaleur dans son cœur, mais parce qu'il est capable de se détacher. Montre-moi ce que tu es capable de perdre, et je te dirai si tu veux me gagner. Alors, c'est toujours difficile. Mais c'est l'image... L'image de l'évangile. La première image dans l'évangile, je prends Saint-Marc parce que je le connais le mieux. La première image du disciple, c'est un disciple, c'est quelqu'un qui est appelé par Jésus et qui sort de l'eau. C'est ça? Vous êtes d'accord? Non. Il est comme un poisson qui est pêché par Jésus qui sort de l'eau. Ça va? Tout le monde est d'accord? Parce que c'est la pêche à l'épervier. Donc l'épervier, c'est une pêche où vous êtes un petit peu dans l'eau. Un peu à mi-hauteur, vous avez. Est-ce que vous avez déjà vu un poisson sortir de l'eau? Est-ce qu'il est bien? Non, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Donc, la suite du Christ, le choix, la préférence, fait qu'au départ, on n'est pas bien. C'est pas facile. Quand on n'a jamais prié, c'est un peu difficile. Un petit peu comme un poisson qui dit « mais j'aimerais retourner dans l'eau, quoi. J'aimerais ne plus prier. » Voilà. Voilà. Bon, j'aime bien cette image. Bon. Hein? Bon. Donc le maître apprend ses disciples à mourir. Bon. C'est ça la conversion. La conversion, c'est... C'était l'évangile de dimanche dernier. Hein. Si celui qui renonce à lui-même, il peut me suivre. Bon, voilà. Bon alors, ce temps de prière, voilà, je vais le trouver, etc. Bon, et je vais me disposer. Alors j'ai mis par un geste d'adoration, par le signe de la croix, en choisissant un lieu. C'est important de trouver un lieu. Voilà. Et les gens, c'est dans leur chambre, ils ont un lieu, ils ont... Moi, j'ai vu ma maman prier, elle avait un petit lieu dans le salon, et je disais, maman, il est où mon pantalon, je sais pas quoi, là, je partais à l'école. Et ma maman priait le matin, donc. Et en fait, j'ai appris, un peu comme Etty, j'ai appris à prier en voyant maman prier. Donc elle avait un lieu, un crucifix, bon, voilà. Je savais bien que c'était son lieu. Bon. Et puis je pose un acte de foi, ce que j'ai mis, je crois que tu es là, je t'aime, je te demande ton Esprit Saint pour déposer ce qui me pèse en ce moment et vivre la grâce de la prière. Hein, je ne peux pas prier si j'ai des tas de soucis. Il y a des gens par exemple qui peuvent avoir dans la prière des distractions. Ben, moi des fois quand j'ai une distraction qui est de l'ordre, tiens, je devrais faire ci, je devrais faire ça, j'ai un petit carnet à côté de moi et je note. Ne pas oublier de prendre le dossier pour la catéchèse. Tac. C'est bon. C'est noté. Du coup, je peux prier en... Ça y est. Convenablement. Voilà. Bon, ça, c'est pour tout ce qui est un peu matériel, pratique. Bon. Le lieu, le moment, quel moment de la journée, la veille, je comprends. Bon. Maintenant, la prière, nouveau petit chapitre. Je l'intitule « La prière, œuvre de Dieu en nous ». La prière est l'œuvre de Dieu en nous. En fait, comme je vous l'ai dit, la prière, c'est comme un terrain, un travail de disposition pour accueillir une semence. Mais finalement, l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Un petit peu comme quand Michel-Ange parle de la sculpture, il dit « Sculpter, c'est faire ressortir une forme qui est déjà présente dans le marbre. Prier, c'est laisser simplement l'Esprit Saint agir, prendre toute sa place, l'Esprit Saint qui est déjà en nous par notre baptême dans notre cœur. Voilà. Laisser Dieu faire son œuvre. Et c'est ce que dit Jésus en Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, mon Père viendra chez lui, et il fera chez lui sa demeure. Donc, dans la prière, je vais vraiment rentrer dans cette supplication, je peux même reprendre ces paroles. Seigneur, tu m'aimes, tu veux habiter mon cœur, hein, tu me donnes ta parole que je vais ouvrir, et tu veux demeurer en moi. Voilà, je comprends que cette prière, eh bien, elle se fait dans mon cœur, que mon cœur est le temple de l'Esprit Saint. Alors, curieusement, dans ce cœur, rentrer dans son cœur va passer par le repos du corps. Plus tu veux rentrer à l'intérieur de toi-même, plus il faut disposer ton corps. Je vais vous faire un petit sketch. Donc, la personne qui, en gros, démarre dans la prière et n'a pas eu la catéchèse de ce matin. Il arrive à la chapelle chez lui. Quel est le problème? En fait, ce jeune homme est venu à la chapelle, il n'a pas compris que, en fait, Dieu est venu jusqu'à nous par son Fils, c'est-à-dire par le Verbe qui a un corps. Dieu nous a aimés avec son corps. Et donc, il va falloir que tu retournes vers le Père avec ton corps. Le grand auxiliaire, l'atout de la, comment dire, de la grande aide pour la prière, c'est notre corps. Voilà. C'est lui qui va nous aider à retourner à Dieu. Puisque Dieu est venu jusqu'à nous pour nous montrer son amour par son corps, je vais retourner au Père par mon corps. Je vais profiter de ce corps. Prenez le texte numéro 4. Donc on revient dans les pages. Texte numéro 4, ça va être... Voilà, prier avec son corps. Page 2. Un peu. C'est de qui ça? Ah ben Lubianska. Voilà, encore. Le corps devient l'auxiliaire de l'âme dans son effort de s'élever à Dieu par la prière. L'auxiliaire de l'âme. Car prier n'est pas autre chose qu'être attentif à Dieu. Comment cette attention se concrétiserait-elle sinon par l'effort de tenue? L'attitude corporelle symbolise alors l'attitude de l'esprit. L'attitude corporelle symbolise alors l'attitude de l'esprit. Elle cite saint Paul, « Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, se conserve sans reproche jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Prenez le texte en dessous, Pseudo-Macaire, père du désert. Dieu a bâti le ciel et la terre pour que l'homme y demeure, mais il a aussi bâti le corps et l'âme de l'homme pour en faire sa propre demeure, pour habiter dans son corps, s'y reposer comme en une maison bien tenue. Là, le Seigneur dépose et amasse les célestes richesses de l'esprit. » Voilà, du coup, la prise en compte de mon corps va m'éviter de tomber dans un petit peu ce que j'appelle la discussion intellectuelle. Il y a des gens, la prière pour eux, c'est en fait une sorte de réflexion à partir d'un texte. Donc, une réflexion à partir d'un texte, que vous soyez bien dans votre corps ou pas bien, c'est pas très grave, vous réfléchissez. Bon, attends, c'est pas ça. La prière n'est pas une réflexion à partir d'un texte. La prière, c'est de prendre conscience à nouveau que je suis temple de l'Esprit Saint et de permettre à Dieu de faire son œuvre. Hein, l'Esprit intervient en nous en des gémissements ineffables, Romains chapitre 8. Et la parole de Dieu, l'icône, le Saint-Sacrement devant, etc., vont être cette présence du Seigneur, mais qui doit à un moment donné être intériorisée. Voilà. À un moment donné, je rentre en moi parce que je suis le sanctuaire de l'Esprit Saint. Donc à un moment donné, on ferme les yeux, on rentre en soi. Alors on va voir ça. Concrètement, vous n'avez pas besoin de le lire, je vais le commenter au fur et à mesure, mais je m'inspire d'un travail, donc c'est le texte numéro 8, page 3. Mais c'est pour dire, parce que là je vais le faire. Je m'inspire d'un travail en fait qui est j'ai fait une retraite pendant 10 jours, une école de prière, et donc il y avait ce texte-là que j'ai repris de cette école de prière. Et en fait, l'enseignant disait, la nature est une belle parabole pour nous apprendre à prier. Et alors du coup, on a été éduqués à prier à partir des éléments de la nature, hein, comme une parabole, ce que fait Jésus. Hein. Jésus prend les éléments de la nature pour parler du cœur, voilà, l'arbre, hein, qui signifie le cœur. De la même manière, eh bien, cet enseignant prenait les éléments de la nature pour nous parler de la prière. Alors il nous disait concrètement, et voilà, texte numéro 8, une personne visite son père spirituel et lui demande, Père, apprends-moi à prier. Celui-ci répond, tu es le roi de la création, commence par prier comme la création. Le père spirituel poursuit et d'abord prie comme le rocher. Que fait-il? Placé à un endroit, il ne bouge plus. Toi aussi, demeure stable et immobile comme le roc. Voilà. Premier regard, je prie comme le rocher. C'est-à-dire que je suis stable. Je ne suis pas au bord de mon siège. Je vois bien quand j'ai des gens, par exemple, qui viennent chez moi, là, pour un entretien. Il y en a, je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'ils sont pas très à l'aise, mais ils ne s'assiedent pas. Ils se mettent au bord du siège, comme ça. Attendez, mais asseyez-vous. Asseyez-vous, prenez bien place. Voilà. Colonne vertébrale, bien assise. Voilà, bien posée. Voilà, je prie comme le rocher, je suis stable. Voilà. Les pieds bien, j'ai un prie-Dieu, un machin, ben je le lève, je le mets de côté, si c'est pas pratique, voilà, je suis stable, les pieds bien au sol. Bon. Le corps. Le démon veut toujours nous faire sortir du corps. Hein. C'est que le démon a une haine du corps, peut-être parce qu'il en est jaloux, il n'y a pas de corps, lui. Enfin, je pense, faut pas que je fasse de digression trop, mais bon. La question de tout ce qui est virtuel. L'autre jour, j'ai acheté un bouquin, en fait, que j'avais déjà dans ma bibliothèque. Je pensais que je ne l'avais pas. Et alors, j'étais sur Internet parce que je voulais rapidement le livre. Et je m'étais dit, en fait, après coup, si j'avais dû acheter le bouquin en allant à la procure ici. En fait, le temps que je me décide à y aller, etc., en fait, je ne l'aurais pas acheté. Du coup, je ne l'aurais pas eu en double. Mais vous voyez, l'intérêt de l'achat par Internet, c'est que le corps n'est pas sollicité. Du coup, j'ai fait la bêtise d'acheter alors que je n'avais pas besoin. Vous avez le même problème avec la pornographie aujourd'hui. Comme la pornographie est accessible maintenant par Internet, c'est un fléau pour des couples, des familles, des jeunes. Mais vous voyez, le fait de cliquer, le corps n'est pas sollicité. Avant, fallait aller, enfin, je ne sais pas trop, enfin, je n'ai pas beaucoup de famille. Ah. fallait aller au magasin, fallait acheter la vidéo ou le magazine, fallait rougir devant la caissière et tout ça. Le caissier. Oui. Et le démon, il aime bien, en fait, il aime bien. Voilà. On va faire sans corps. Bon. Donc, c'est très important pour ça. Prenez le texte numéro 9, tout en bas de mon petit truc là. Texte 8, texte 9 en dessous. Saint-Angèle de Foligno. L'oraison corporelle suppose le concours de la voix et des membres. On parle, on articule, on fait le signe de la croix. Les génuflexions ont leur place dans cette prière. Cette oraison, je ne l'abandonne jamais. J'ai voulu autrefois le sacrifier, la sacrifier entièrement à l'oraison mentale. Mais quelquefois, le sommeil et la paresse intervenaient et je perdais l'esprit de prière. C'est pourquoi je ne néglige plus l'oraison corporelle. Elle est la route qui mène aux autres. Bon. Alors, je prie comme le rocher, ensuite je prie comme la fleur. Maintenant que tu demeures stable et immobile comme le roc, tu vas prier comme la fleur des champs. Que fait-elle? Elle oriente sa corolle vers la lumière, ouvre largement ses pétales à l'ardeur du soleil et s'abandonne fragile au souffle du vent. Elle est tellement souple que la moindre brise l'entraîne. Toi aussi, ouvre tout ton être à la vie. Lâche-toi, détends-toi, jusqu'à te laisser faire. Donc, l'idée, voilà, de cette fleur, faut que j'écourte un petit peu les choses, et puis on verra. Après le rocher, la fleur, si vous voulez, elle s'oriente au soleil. Bon. Donc la question, ça va être pour moi, en fait, d'accueillir quelque chose. De m'orienter vers la parole de Dieu, soit vers le Saint-Sacrement, soit vers une image, une icône que je vais recevoir. Bref, mais si je prie à partir de rien, simplement en descendant dans mon cœur, il faut que je nourrisse mon cœur. Hein, je suis cette fleur qui doit recevoir quelque chose. Je reçois le soleil. Bon. Alors, dans l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est un exercice de disposition. On va faire le premier, comment dire, les premières minutes de la prière pour apprendre à nous disposer. Le travail. Alors, du coup, ce travail de disposition, je l'explique déjà, on va nous expliquer qu'il faut d'abord écouter.